Le mercredi 21 janvier 2010 et quelques, à 15 heures, dans l'écrin de la croix Catelan, une longue ovation retentit. Qui était là? Des amateurs venus chercher un spectacle et des spectateurs la magie d'un texte. Tous savouraient la prouesse de l'artiste jonglant avec les mots, l'originalité d'une telle représentation, sans comparaison avec un récital, une pièce, un stand-up. Le terme de one-man show lui-même, pourtant légitime, semblait inapproprié. Certains caressaient l'espoir sadique de voir l'interprète bafouiller, hésiter, se tromper, et découvrir sa réaction au cas où il perdrait pied. D'autres cherchaient à rencontrer d'autres amateurs. Pour l'ensemble, on allait à la découverte d'une œuvre d'autant plus attendue qu'elle était précédée de sa réputation d'illisibilité. Tous, un demi-millier de personnes, se seraient montrés d'accord sur le mot « inouï » en son sens littéral. Membre du club, Pierre Assouline se chargea, dans un numéro brillantissime, d'introduire Fabrice Pelletier. Déjà présent à Cabourg, il bissait son plaisir. Ceux qui s'attendaient à un ton alambiqué pour rendre une écriture compliquée allaient être déçus. Depuis le début, Fabrice avait trouvé la voix juste, le débit authentique, l'intonation ad hoc, tantôt pressant, tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leur quantité fût différente, dans un rythme uniforme. Point de grandiloquence, point d'effet. C'est un art tout de subtilité. Les sons ne se faisaient pas trémolo, ils ne masquaient rien, ils faisaient découvrir la prose de Proust, le vrai visage de ces personnages. Le récitant racontait. Il ne récitait pas, car il insufflait la vie telle que quelqu'un, victime d'étouffement, peut la proposer, à dose comptée, en souffle successif, court mais régulier, entrecoupé de silences qui n'étaient pas des vides. Il avait su éviter les pièges de la fêterie, de la minauderie, de la préciosité. Il amortissait les effets quand certains étaient venus pour les entendre accentuer. Sa voix était claire, sans être féminine, humaine, sans se vouloir virile. Ce premier jour, dans ce cadre mondain, une fois de plus, la voix de Fabrice se fit suggestive et convaincante, n'imposant ni n'inventant rien. Elle se voulait la claire expression d'une pensée touffue et d'un style ardu. Comme à Illiers-Combray, comme à Cabourg-Balbec, la magie opéra. Le public, pas éloigné de celui de Cabourg, mais plus sélect, avait de quoi se régaler avec le programme de la première séance, la vie d'hôtel particulier dans les beaux quartiers de Paris. Dans le décor de l'hôtel de Guermantes, où la famille du héros est désormais logée, la vie s'organise avec un ancien giletier et une jupière. La touchante Françoise y régente son petit monde, refaisant l'autre et le commentant jusqu'aux répercussions des grèves du Canada sur l'usage des biscottes. Le docteur Speck commençait à relâcher son maintien pour jouir davantage du spectacle. Après les domestiques, les maîtres et la duchesse de Guermantes prennent la vedette. Les dames bien mises, venues écouter Fabrice, pouvaient se reconnaître en elle qui regardait si sa voilette était bien tirée, aplatissait ses manches, ajustait son manteau. Les ressemblances étaient si fortes que l'on aurait trouvé la rime en renommant pour elle le précatelan en les catelantes. Nombre des hommes présents faisaient partie de ce que Proust dit qu'ils ne sont que des noms et qui prennent tour à tour, quand on cherche à se le représenter, l'aspect d'un tournoi et d'une forêt de maniales. À Cabourg, l'argent était visible, mais pas ostensible. À Paris, il n'existait plus tant ce qu'il offrait était omniprésent, naturel et transmis depuis des générations. L'opulence était discrète, sinon le gratin aurait crié à l'impardonnable faute de goût. Quant au duc, le héros en fait, par la bouche de Fabrice, un autre spécimen, à l'imitation de la princesse de Luxembourg, de ces personnages socialement élevés qui condescendent à toucher ceux qui leur sont inférieurs, juste avant les bêtes, prenant ainsi la main de son père, la caressant pour lui prouver qu'il ne lui marchandait pas le contact de sa chair précieuse. Dans ce théâtre d'ombre, les silhouettes s'entremêlent de sorte qu'un valet de pied peut utiliser le « nous » pour parler des activités des seuls maîtres. Nous n'irons pas à la grande soirée d'ombre chinoise chez la princesse de Parme. Nous allons quelquefois à l'opéra. Venu à l'opéra pour écouter la Berma, le héros, lui, s'embrouille dans la versification. Cherchant un alexandrin de Phèdre, il aboutit à une phrase dont il n'aurait pas été étonné qu'il eût fallu ôter plus de 6 syllabes pour en faire un vers de 12 pieds. Et glose sur la baignoire de la duchesse de Guermantes.